Bien. Alors, regardez, les amis, en un mot. Donc moi, j'ai jamais étudié le Midrash Rabba dans l'ordre, jamais. Et même, c'est pas trop ma tasse de thé, mais ça commence bien, quoi.
Ça commence toi.
Pas mal, pas mal.
Moi, j'ai du café.
Je comprends. Voilà. Je
et
comprends.
Lui, il avait même un croissant, une viennoiserie.
C'est pas sûr. On vit une vie qui défrait la chronique. Alors, tout ça pour dire, c'est presque aussi palpitant que Benjamin Griveaux. Bon, tout ça pour dire. Ça pour dire que. Par contre, j'ai une frustration de parce que je vois que Rashi, par exemple, connaissait tout le Midrash Rabba, tout le Midrash Tanhuma, et rien que prendre connaissance déjà du texte, je pense que c'est déjà quelque chose. Non, on a vu ensemble au fil des années que ces textes nécessitent une méthode et des clés pour rentrer dedans. Mais avant de chercher les clés, déjà prenons connaissance des problématiques et de la méthode. On va découvrir ça ensemble, si vous le voulez bien. Alors, j'ai fait des photocopies, monsieur, peut-être avec des commentaires. Bien. Ça, c'est la première feuille. Alors, la première feuille, la deuxième feuille. Alors, il y a des commentaires qui sont et chaque commentaire a sa démarche. Ça, c'est la deuxième feuille. Et aussi, les versets sont censés être connus. Ça veut dire tout le Tanar est censé être connu. Hein. Ça veut dire, ça c'est pour toi, 3. Alors, on va commencer. Alors, le Midrash Rabba.
Les commentaires sont de qui?
Comment?
Les commentaires sont de qui?
Alors, on va tout de suite. C'est récent, en vérité. Hein. C'est du 19e siècle. Les commentaires sont du 19e siècle. Ça, c'est le Midrash. Le Midrash, la version Vilna. Donc, il y a, je sais pas, 150 ans, ils ont publié ça. Comment? Ça va venir. Ok, alors, on sait que dans la Torah, il y a quatre niveaux de lecture, ce qu'on appelle le pshat, le remez, le drash et le sod. Ok, monsieur Parizet, oui, mais encore, non, ça va.
Oui.
Bon, ça veut dire, la Gemara dit, en particulier dans Maserati Evamot, En mikrayot seme de pshuto, un verset ne sort pas de son pshat. Sauf quelques exceptions, sauf un verset dans le Chumash, où là, on sait en tradition qu'il n'y a pas de pshat, et le livre d'Ivrei Hayamim n'a pas de pshat. Ça veut dire que le verset est fait drash, ça veut dire fait allusion à quelque chose qui n'est pas écrit. Alors là, c'est ça va loin, tu vois. Donc il faut une méthode extrêmement précise par rapport à quoi ça fait référence. Bien. Alors, il y a le remez. Le remez, ça fait référence à quelque chose. Le drash, c'est une lecture serrée du texte. Moi, j'explique drash, mais la chaîne d'oresh, qui veut dire exiger. C'est une lecture exigeante du texte. Drash, d'oresh. Quelqu'un qui recherche, qui exige. C'est, si vous voulez, comme on dit, une lecture recherchée. Tu vois, recherché en français, on dit bonjour monsieur, Quand on dit c'est recherché, tu as un volume ? Non, il n'y a pas de problème, j'ai fait des photocopies. Rechercher, quand on dit rechercher, ça veut dire c'est snob, tu vois. C'est pas une lecture snob, mais c'est une lecture, moi je dirais, exigeante. Exigeante. Ça, c'est le drache. Et le sod, bon, c'est le secret. Je ne sais pas exactement qu'est-ce que c'est le secret. Maintenant, le pshat, c'est-à-dire que les versets ont une cohérence. Il y a une lecture cohérente du texte. Maintenant, pour avoir une lecture cohérente du texte, parfois, il faut des outils complexes, parce que la lecture simple du texte a l'air chaotique, et pour donner une cohérence au texte, une cohérence simple, il faut des outils complexes. Donc c'est pour ça que Rashi, il dit que l'eau bâtie est là, les pshoto chez le mikra. Je ne viens que pour le pshat du verset. Or, on va voir ça tout de suite. Avant de voir déjà le Midrash Rabba, on va faire des Rashi sur le Chumash. Hein. On va, si vous voulez, on va le Mirel, on va aller un peu à la découverte. Hein. C'est, personnellement, c'est ce que j'aime bien. Et j'espère partager ça. Je sais que vous êtes, comment dire, vous avez déjà fait preuve de patience par rapport à ça. Donc, on fait un atelier, c'est un atelier, comment essayer de rentrer là-dedans. Mais il faut déjà voir déjà les problèmes avant de voir à quoi le Midrash va répondre. On va regarder, avant de faire déjà le Midrash, on va regarder les versets de Bereshit, les premiers versets. Hein. Alors, c'est Rabbi Hoshia qui a fait la rédaction. Maintenant, tous les commentateurs relèvent que dans le Midrash Rabba, paradoxalement, sont cités des auteurs postérieurs à Rabbi Hoshia. Donc, manifestement, c'est pas lui qui a mis la dernière mouture du Midrash Rabba. En tout cas, c'est la génération après Rabbi Hoshia, c'est la génération après celui qui a écrit la Mishnah. Voilà. Donc il y a le mais chaque Midrash Rabba, il y a le Midrash Rabba sur Bereshit et Midrash Rabba sur Shemot, c'est un autre style. Midrash Rabba sur Bereshit est très très développé. Sur Shemot, ça l'est moins. Okay, alors regardons déjà les problématiques dans le premier verset. Alors, on prend le premier verset. Bereshit. Bara Elokim et Hashamayim v'et Haaretz. Va Haaretz aita tohu vavohu v'chosher al pnei teom v'ruach Elokim rachefet al pnei hamayim v'yomer Elokim yoyi or v'yoyi or. Alors, tout le monde traduit au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Or, vous êtes bien d'accord que ce n'est pas possible de traduire comme ça, n'est-ce pas, monsieur Philippe Pérez? Pourquoi ce n'est pas possible?
Bah parce que Bereshit, c'est-à-dire par les prémices, c'est ça? C'est pas ce qu'on peut dire au commencement. Par les prémices, Dieu créa les... Et puis certains disent Dieu créa l'alphabet des cieux et l'alphabet de la terre, un truc comme ça.
Oui,
c'est ce que j'ai lu.
Non, c'est très bien, c'est tout à ton honneur, voilà. C'est parfait, voilà. Sauf que tu n'as pas répondu à ma question. Ouais. Tu n'as pas répondu à ma question.
C'est dans le commencement.
Comment?
Dans le commencement. Bereshit.
Veuillez être précis, monsieur Pérez, là, on va le faire bosser, là. Hein, là, le...
Comment? Il y a eu autre chose avant ce Bereshit, il y a eu autre chose.
Attends, tu pars vite. Moi,
j'ai juste à dire.
Je suis encore pas réveillé. Je viens de me réveiller là. Je suis encore endormi. J'en poste Tafina. Oui. Quelle est l'anomalie dans le verset ?
Rachid Bara. Oui. Elohim est après.
Bon, ça c'est... Oui, d'accord. Non, d'accord, ça c'est une... C'est vrai, c'est bien. C'est bien. À telle enseigne que lorsque les 70, c'est très bien... J'ai pas mon matériel, je suis... Oh là là, je suis désolé, j'ai pas les bonbons et tout.
Je mange pas de bonbons,
j'ai pas de bonbons.
Ça sera, je serais pas frustré.
Oui, alors quoi ?
Non, alors regarde, lorsque tu dis...
Au commencement, Dieu créa, c'est inverse par rapport à...
Créa Dieu, donc tellement que les 70, quand ils ont traduit la Torah en grec, ils ont mis Dieu créa au commencement, etc., pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, parce qu'on dirait que le commencement a créé Dieu. Ça, c'est pas mal, c'est bien, avantage. Mais de manière encore plus simple, c'est que le Bereshit, c'est une forme construite. C'est au commencement de. Bereshit, c'est au commencement de. You understand? Parce que ça va dire Parishona.
Parishona, oui.
C'est. Certains disent que au commencement Dieu crée à Dieu, c'est-à-dire que
ça. C'est le signe d'une forme construite. Mmh. Au début de, Dieu, au début de. On comprend pas. Au début Dieu, de. Au début de, Dieu créa les cieux et la terre. Au début de. C'est.
Il faudrait vraiment un noir.
Moi, dans la marge, je mets moins un. Moins un. Soignez votre syntaxe. Donc l'auteur.
C'est ah ouais, pas bon. C'est pour ça que là ils ont mis au commencement de la création.
Ah voilà, très bien.
Enfin, ils ont traduit comme ça.
Voilà, c'est parce que la traduction, qui est une très bonne traduction, suit Rashi. Alors on fait Rashi, regardez. On fait pas le premier Rashi. On fait pas le premier Rashi, on fera plus tard. Mais. Bereshit bara, le deuxième. Bereshit bara, enamikra azé omer ela dorshani. Ce verset ne dit seulement recherche-moi. Regardez comme c'est beau Rashi. Ça veut dire Rashi, donc lui, son cahier des charges, c'est le pshat. Il dit là, c'est impossible. Là, on m'a demandé un travail, je peux pas. Baba, ce verset me dit seulement fait le drash d'Orshani, c'est-à-dire on a expliqué que c'est recherche. Voilà. Que tu vois le verset, tu dis qu'est-ce qui se passe, ça va pas. Il dit recherche-moi. Kemo shamru rabotenu zichronam libracha, comme disent nos maîtres, on verra ça dans le midrash rabba. Bishvil la Torah shinikra treshit darko. Que Bereshit bara Elokim tashamayim, c'est pour la Torah qui t'appelait, comme monsieur Drogoziner ici présent, notre sympathique candidat, pour la Torah qui t'appelait prémisse. Bereshit, pour les prémices, Dieu créa le ciel et la terre. Bishvi la Torah shekra Dreshit darko, parce qu'on voit dans les versets de Michelet, des proverbes de Salomon, la Torah est appelée prémisse des chemins de Dieu. Alors ça, on va voir le début du Midrash Rabba, ça va être là-dessus. Au Bishvil Israël, chez l'écrit Reshit Tevoato, dans Jérémie, c'est écrit Israël, prémisse de son engrangement. Voilà. Donc, essayons. Donc, Bereshit Bara Elohim, c'est pour Reshit que Dieu a créé les cieux et la terre. C'est pour la Torah et pour Israël que Dieu a créé les cieux et la terre, parce que le Israël et la Torah sont appelés les prémices. Alors, on avait vu ça il y a X années, souvenez-vous. On avait vu Israël était appelé Réchit, prémices. C'était, on avait vu dans le Maharal, dans Netiva Nava, dans la partie sur l'humilité, que Israël était l'humus de l'humanité. Et tu avais traduit ça, Philippe Pariset, par la terre pulvérisant. C'est toi qui nous avais initié à cette terminologie. La terre pulvérulente, un truc comme ça, c'est-à-dire l'humus. La terre, Israël, était l'humus de l'humanité et pas quelque chose, un produit fini.
Le terreau.
Un terreau, voilà. La terre, Israël, c'est le terreau de l'humanité, tandis que...
Oui, c'est monsieur. Où ça, l'humus de l'humanité?
C'est dans le Maharal,
dans Netiva Anava. Que les nations sont des produits finis, elles ressemblent à quelque chose, tandis que Israël, c'est un potentiel. Ce qui va donner la création et pour alors ça va être ça la question qui va être un petit peu difficile, parce qu'au départ ça paraît très très métaphysique, parce que qu'est-ce que Dieu a créé? Il y a l'infini de Dieu et il y a les prémices de sa création, la pensée primordiale de la création, ce qui n'est encore pas un produit fini, qui est le début des choses. Et ce début des choses, c'est Israël et c'est la Torah. On comprend aussi de manière simple que si Israël n'est pas dans la Torah, il a du mal à assumer son produit fini. Un juif, souvent, il veut... on parle toujours de l'assimilation. Vaste question. C'est normal. Je veux dire, on n'a pas d'identité propre. On a besoin d'une identité, de quelque chose qui ressemble à quelque chose. Le Foch, là, voilà, regardez, on est dans le 19e arrondissement. Ça ressemble à rien, la communauté. C'est les écoles juives, c'est n'importe quoi. Je sais pas, je veux faire offense à personne, mais... Shalom. On veut, je sais pas, arriver au MIT, voilà, ça c'est... Ben, tout le monde, il n'y a que des feuilles là-bas, d'accord, mais... Parce qu'ils veulent faire quelque chose qui ressemble à quelque chose. Les juifs, ils sortent du shtetl ou ils sortent du mela, etc. Et qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Je sais pas, moi, faire quelque chose qui ressemble à quelque chose. Pas rester le fils juif, faire comme nos grands-parents avec les Schneider. Vous savez que c'est les Schneider, c'est les tailleurs, là, ici, ils cousent le pantalon. Ça va, je veux dire, on peut sortir du coup de le pantalon, ça va. On a un peu d'intelligence, on peut quand même faire quelque chose dans la vie, quand même, hein. Alors, si quelqu'un, il étudie pas la Torah, qui nous met ce côté prémisse qui en fait quelque chose, en réalité, qui donne une créativité à cette dimension de prémisse, ben c'est sûr qu'on va devenir, on veut être des best-seller mensch, des gens bien, quoi, même. Hein? On en a marre.
D'être éprouvé.
Ouais, mais on a marre des... Je sais pas, tu vois, les restos cachers, c'est... Tu cherches le porte-manteau et... Monsieur, où je peux mettre le... Et tu te fais engueuler parce que tu cherches un porte-manteau. Et monsieur, qu'est-ce que c'est... Asseyez-vous, sinon il y a des gens, ils vont prendre votre place.
Là, sur lui.
Le pire, c'est les restos cachers qui veulent faire classe. Ça, c'est le pire. Je préfère aller dans les gargotes. Je préfère qu'ils s'assument.
Et tu payes un maximum à la sortie. Rares sont ceux qui sont vraiment...
Non, mais d'accord, mais c'est ça, donc le Réchit.
C'est prétentieux.
Comment ?
C'est prétentieux.
C'est le ticket. C'est-à-dire. À côté de, d'aller dans un truc qui avait un tour de dos de Rossini.
Il y a longtemps, oui. Mais bon, c'est fini, je n'ai pas des trucs comme ça.
Non, maintenant, on a la Roma. Il y a Gadiel à la Roma. Il y a Gadiel à la Roma. On a tout ce qu'il nous faut. On a tout ce qu'il nous faut. Alors, tout ça pour dire, bon, tout ça pour dire que cette problématique du Réchit, il y a quand même une contradiction. Alors, si tu dis que c'est pour le Réchit que Dieu a créé les cieux et la terre, sont quand même des produits finis. Et ça a été, Rachid dit, pour la Torah et pour Israël. C'est quand même un paradoxe. Parce que si tu vas dire que la terre et les cieux ont été créés par la Torah, Bereshit, c'est par, pour, avec, hein, comment traduire le bête ? Avec, pour, c'est pas pareil.
Hein ? C'est pas tant dans le
bête. Alors, mais Rachid prend l'option Bishvil, pour. Hein, pour la Torah. Ça, c'est l'option de Rashi, qui va être un des Midrashim. Alors là, il va y avoir dans le Midrash Rabba toute la palette. Comment donner un relief aux bêtes ? Ça va être pour, ça va être par, dans. Il va y avoir toute la palette d'explications. Comment ? Absolument. C'est majeur. C'est majeur. C'est les...
Et en plus, c'est la première lettre.
Par, pour, dans, je ne sais pas.
Par, pour et dans, ça change complètement. Mais l'option de Rashi, c'est pour. Oui. Ces commentaires, c'est l'éditeur. Non, c'est l'édition Art Scroll. Édition Art Scroll de Sherman et Zlotovich. Qui a été fait en anglais, Sherman et Zlotovich. Ils ont fait ça en anglais il y a, je ne sais pas, 40 ans. Et ça a été traduit il y a une dizaine d'années en français. C'est une très très bonne édition. C'est une excellente édition. Mais bon, moi je préfère pas.
Il n'y a pas de traduction de Rashi, quoi, je veux dire.
Ah non, non, non. Par contre, ça existe. Tu sais qu'il y a. Il y a Rashi traduit. Il y a moult éditions de ça, dont l'édition. Orange, comme ça, hein. Tu connais. Enfin, là-bas, elle est en rouge. Bon, plusieurs éditions. Bien. En tout cas, ça c'est la première explication. Regardez maintenant, on continue. Le Rashi, hein, le Rashi. Pourquoi je fais Rashi avec vous? Pour voir déjà le problème. À quelle question le Midrash va s'atteler? Vimbata. Vimbata le farcho kepshuto. Ben non, si tu viens expliquer le verset kepshuto, car farcheu, ainsi tu vas l'expliquer. Dans le sens simple. Bereshit beriyat shamaim va'aretz. Au début de la création des cieux et de la terre. C'est-à-dire, Bereshit, si vous voulez, au début de, parce que c'est-à-dire au début de la création du ciel et de la terre. Il faut dire Bereshit, le Yud Tav à la fin, est un facteur commun de ce qui va. C'est comme maintenant, on met ouvrez la parenthèse. Au début de la création des cieux et de la terre était tohu bohu et obscurité. Vayomer Elokim Yahior. Donc maintenant qu'on reprend, au commencement, donc c'est comme ça que cette édition Art Scroll, il traduit en intégrant Rashi dans la traduction. Hein. Au commencement de la création par Dieu des cieux de la terre, alors que la terre était étonnamment vide avec l'obscurité sur la face de l'abîme, et que Dieu dit. C'est-à-dire que c'est lors du commencement de la création, voilà. Et Rashi va nous dire quelque chose d'extraordinaire. Veloba mikra leorot seder abria lomar chez Lukanmu. Et le verset d'après cela ne vient pas nous enseigner lors de la création pour nous dire que ceux-là ont précédé, pour nous dire que au début Dieu créa les cieux et la terre, que les cieux et la terre étaient la première création de Dieu. C'est pas pour nous dire que les cieux et la terre sont la première création de Dieu. Shehim ba le rodkar, car si le verset venait nous enseigner ainsi, ayalo lirtom barishona bara et hashamayim. Le verset aurait dû dire au début, Dieu créa. Parce que jamais dans les versets on ne trouve le mot Réchit qui n'est pas lié à un mot d'après, c'est une forme construite. Donc Rashi nous dit ici, c'est une bombe atomique. Est-ce que vous en subissez les radiations, cher Philippe Pariset? Est-ce que tu te sens irradié par les rayons bienfaisants de Rashi?
On ne sent pas encore bien les effets, mais ça ne saurait tarder.
Monsieur Pérez, quel est le foudroyant de que nous dit Rashi? Quel est le cataclysme de Rashi? Ah, il faut bosser demain le matin. Quoi?
C'est au commencement 2, donc.
Oui, d'accord, mais. Allez.
Moi, j'écoute.
Ah, toi, t'écoutes, toi, ouais, t'es. Ok.
C'est pas comme la chanson qu'on chante en primaire. Hein.
Au commencement de créa le ciel et la terre. Au commencement de créa le ciel et la terre. Bereshit. Bara Elohim, et Hashamayim et Haaretz. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Non, c'est pas ça du tout. Là, les tunnels, là. Oh. Ouais, ouais, d'accord, j'ai compris. Toi, t'étais en mode post-bouddhiste. Mais. Monsieur, mais je veux faire bosser, là, notre. Notre manager de la Roche-sur-Yon. Alors, monsieur Pérez, là, qu'est-ce qu'Hirachi nous dit?
Attends, c'est quoi la question, là?
Ah ouais, monsieur, il se réveille, là, c'est quoi la question? La question est la suivante. Rashi nous met dans une apoplexie que je sens que je partage avec
vous. Ah oui, au commencement.
Que tu propages, oui.
Rashi nous met dans une apoplexie que je n'arrive pas à partager avec vous.
On n'avait rien demandé. Oh, t'es devenu peinard.
Monsieur Pérez, là, tu vas bosser.
À mon âge,
À ton âge. Ton âge vénérable. Dans la vidéo là de Metamidrash, tu as dit oui, mais quand je vais étudier, j'oublie l'âge que j'ai. Alors voilà.
Oui.
Ah, c'est toi qui l'as dit. Ah, c'est toi qui l'as dit alors.
Il l'a dit. Oui, j'oublie.
Michael.
En quoi c'est bouleversant de dire que finalement il n'y a pas de Seder Abria? C'est parce que le Mikra vient pas m'apprendre qu'il y a
mais
un
Seder. Parce que tout le monde empoigne les juifs traditionnels en disant mais regardez, c'est ridicule. Dans les versets, on parle même pas des dinosaures, des trucs et machin. Vous ne faites même pas allusion au Big Bang, au machin. Mais c'est, comment dire, c'est contredit par les connaissances scientifiques actuelles. D'ailleurs, Stephen Hawking ne disait-il pas que machin bidule. Or, Rashi nous dit que c'est pas le sujet. C'est pas le sujet, qu'est-ce qui est en premier, qu'est-ce qui est en deuxième, qu'est-ce qui est en troisième. On n'est pas dans un... C'est pas... Mais il y a même un paradoxe, c'est que il y a même un paradoxe. D'abord, il nous dit que Bereshit, c'est une forme construite, donc c'est pas au commencement. Là, premièrement, c'est pas au commencement. Laisse-nous tranquille, on parle pas de ça. Et que la Torah est en train de nous dire quel est le but de tout ça. C'est la Torah et c'est Israël, premièrement. Donc d'abord, on n'est pas dans un livre de science. On est dans un livre de qu'est-ce qu'on a à faire dans la vie. Parce que la Torah, Israël, c'est une question de qu'est-ce qu'on fait dans l'existence. Bien, ça c'est premièrement. Deuxièmement, disons, ok, ça ne plaît pas. Le drash, on dit, ok, on va, puisqu'on nous dit Emikra Yotsevede Pshuto, on va essayer de bosser. Donc moi, le pshat, dit-il, c'est le contraire du pshat qu'on s'imagine. Parce que le pshat, c'est qu'on s'imagine, dans la lecture simple des versets, c'est que Dieu a créé les cieux, ensuite il a créé la terre, ensuite il y a eu les ténèbres, ensuite il y a eu ceci, et qu'on nous dit lors de la création. Voilà. C'est n'importe qui dit ça. La Bible, face aux connaissances scientifiques actuelles, nous allons faire un numéro spécial du point. Oui, sur la Bible face aux connaissances actuelles. Alors, monsieur le rabbin parisien, oui. Vous qui avez beaucoup fréquenté le rabbin Zizek, n'est-ce pas, est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu sur la dimension, la confrontation des versets à la Bible? Oui, n'est-ce pas? Première explication de Rashi. Rashi nous dit, je cherche à donner une lecture cohérente du texte, ça parle pas de ça. Ok. Bon, maintenant on va donner une lecture, deuxième lecture, plus cohérente. Oui, plus serrée dans le texte. Il faut dire Bereshit, c'est-à-dire au commencement, comme ils ont traduit là de l'édition au commencement de la création par Dieu des cieux et de la terre. Qu'est-ce qui est significatif? C'est que la première chose, première parole que Dieu veut que nous sachions, c'est qu'il y ait de la lumière. Voilà. C'est en vérité le premier sujet. Vayomer Elohim. Dans le contexte de la création des cieux et de la terre, et que la terre était tohu bohu et obscurité sur la face de l'abîme, et que le souffle de Dieu planait sur 20 des eaux. Dans ce contexte, Dieu veut nous dire une chose, qui est la lumière. C'est ça, il veut nous dire. Il y a une volonté, ce n'est pas une description. On n'est pas dans une description naturaliste, mais il y a une volonté de nous dire quelque chose, qui s'appelle Vayomer Elohim Yoyor. Vayar Elohim est à Orkitov et qu'il a vu que la lumière elle est bonne. Donc, même dans la lecture la plus serrée du texte et pas midrashique, on n'est pas du tout dans une description naturaliste des choses.
Quel est le sens? Et le sens, c'est qu'il y a de la lumière.
Quelle la lumière?
Quel est le sens de la création?
Voilà. Donc, voilà, c'est ça ce que Dieu veut nous dire. Mais ça, c'est, moi j'appelle ça un cataclysme. Parce que. En général, on prend Bereshit comme un livre de science. Non, mais le Torah est science, et voilà, monsieur le rabbin, donc machin, que, comment, à la lumière à la lumière des connaissances scientifiques les plus actuelles, que pouvez-vous nous dire sur le récit de la Genèse? Eh bien, Rashi nous dit que La science, c'est bien, mais la Torah, elle a un autre souci, c'est nous dire qu'au début de tout ce bastringue, ouais, on ne sait pas ce bastringue comment il s'est organisé, c'est pas le sujet, ouais, Dieu a dit qu'il y a de la lumière. Voilà, c'est ça qu'il a voulu dire. C'est ça ce que le verset veut nous dire. Dieu a dit qu'il y a de la lumière, il a vu qu'elle était bonne, etc. Voilà, c'est ça qu'il veut nous dire. Donc c'est quand même, j'appelle ça apoplectique. Ouais. Moi,
c'est pas le commencement de la création, c'est le commencement du sens. Et le commencement du sens, c'est l'orientation vers la lumière.
Vers la lumière. J'appelle ça une lecture. Excusez-moi, moi ça me met en apoplexie. Si on le lit, Rashi, il est payé pour nous dire le pshat. Il dit, ok, moi je bosse pour donner un pshat. Je bosse pour donner un pshat, et ben le pshat, c'est-à-dire la lecture serrée du texte ne parle pas de comment les, ça s'est créé.
C'est le contexte.
C'est pas du tout le sujet. Problème. C'est pas le problème.
Mais c'est juste le contexte. Non,
c'est énorme.
Pour nous, on s'entendrait à nous décrire par le détail cette création.
Voilà.
Ouais. Pas du tout.
Rachid nous dit. Mais c'est connu ce Rachid, n'est-ce pas? Je dis, c'est apoplectique. Il faut me faire une perfusion de vitamines. Je suis apoplectique.
Ça ressort bien parce que dans la traduction ils mettent au commencement alors que la terre, alors que ils montrent
que c'est un contexte,
alors que c'était dans cet état de tout et de alors que Bayor.
Donc c'est une très très bonne édition. C'est une très bonne ils ont très très bien travaillé en intégrant Rachid dans la traduction. Mais qui n'a pas cette lecture, si vous voulez, un scientifique, toujours, il y a toujours ces débats. Et d'ailleurs, il y a quelques années, il y a eu le professeur Sahel, José Sahel était intervenu au gala de l'Échiva, je sais plus, il y a 5-6 ans, et il avait dit que la Torah, les sciences, c'est pas le même sujet, ils ne parlent pas de la même chose. Donc il n'y a pas oui, que dit la Torah sur, c'est pas le sujet. C'est pas le même sujet, on parle pas.
Quand on dit que Dieu a créé la terre et le ciel, c'est dans le sens où il l'a créé pour qu'il y ait de la lumière, pour que.
Ah oui, toi tu dis ça.
En tout cas, c'est pas une description. Voilà. Si tu as raison, le point central, c'est Vayomer Elokim Yoyom. Voilà, c'est ça ce que le verset va nous dire. Dans le contexte de la création des cieux et de la terre et que la terre était patatiratataparatatati, voilà. Mais le sujet, que l'on le prenne au niveau du drash, au niveau du pshat, n'est pas dans une description naturaliste d'un phénomène physique. Voilà. C'est pas ça le sujet. C'est pas le sujet du tout, qu'on le prenne à l'endroit ou qu'on le prenne à l'envers. Et même quand il va dire je vais dire le pshat est encore plus décoiffant que le drash presque. Et encore plus. D'ailleurs, moi toujours je me demande, ces grands maîtres comme Rashi, comme Rambam, comme le Maharal et d'autres. C'est tellement, ce qu'ils disent est tellement percutant. Comment ils ont fait? Je sais pas comment ils ont fait. Parce que nous, on est 1000 ans après, enfin 900 ans après, on en voit toute la pertinence, puisque il y a eu tellement de débats, tellement d'enjeux, tellement de discussion, de voir l'angle, la précision de leur angle, sans en général, les gens ils sont ils manient la chèvre et le chou, ils essaient de oui vous avez raison mais quand même on pourrait dire autrement, tu vois, là tac, c'est précis, c'est net, c'est précis. Comment, je sais pas, je reste toujours perplexe.
Hier soir, je disais dans la Gemara dans Batra, elle dit la Gemara que depuis qu'il y a eu le Khorban, la névoie n'est plus chez les Nevi, mais chez les Chachamim. C'est presque c'est la névoie, c'est le Khorban qui dévoile quelque chose qui était la névoie, mais maintenant c'est chez le Chacham, il y a cette notion d'éternité dans
cette névoie. C'est vrai, c'est juste. Adif Chacham et Navi.
Voilà, c'est ça la souga.
C'est vrai. Pas possible. Le roi Hakodesh, c'est juste.
Névoie n'est plus chez Nevim, c'est ça, mais elle est chez Chacham. Comme ça, le Khorban, c'est comme ça.
La destruction. Ok.
C'est un discours stérile. Après, moi, je le vois au lycée, dans les grandes classes, les programmes sont remplis, sont truffés de datation et de d'âge de la terre et de la création du monde. Et enfin, les élèves, les grands, demandent tout le temps cette
confrontation
avec ce qu'ils ont appris au primaire de jour 1, jour 2, jour 3, 5780, 5000. Donc est-ce que c'est un débat stérile ou est-ce qu'on peut dire que cette confrontation au texte de la Torah pour justifier, il en existe hein, des multitudes des chitotes dessus, mais est-ce que ce que vous dites c'est que celle de Rashi, c'est une chita qui dit que...
Alors c'est vrai que c'est peu audible, hein. Quand on dit ça, c'est peu audible, on dit ça des adolescents...
Mais est-ce que c'est pas mieux que de s'embourber dans des
explications
pseudo-scientifiques?
Comment ça, c'est une bonne question. Mm-hmm.
Ce n'est pas une pensée scientifique.
C'est, ouais. C'est pas le sujet.
Faut pas être sur la même planète que la science. Si tu commences à faire des comparaisons.
Maintenant.
C'est surtout qu'il ne faut pas avoir une lecture littérale, c'est ça. C'est surtout qu'il ne faut pas avoir une lecture littérale.
Je te dis comment moi je réponds. Ça vaut ce que ça vaut. Que quand on dit 5780, tout le monde est d'accord, c'est la création de l'homme. 5780, c'est la création de l'homme, c'est pas la création des cieux. Ça commence avec la création de l'homme. Or, quand tu vois les recherches paléontologiques, le début des villages et de l'agriculture, c'est 6000 ans. Il y avait peut-être des hominidés avant, qui avaient peut-être des consciences, puisqu'on voit que tu as des représentations symboliques qui sont très très vieilles, d'ailleurs, hein, par exemple, je sais pas, tu as les grottes de Lascaux, les grottes d'Altamira, les grottes de je sais pas quoi, donc ça c'est beaucoup plus vieux, indubitablement, qu'il y a 6000 ans. Mais 6000 ans chez les paléontologues. Pourquoi on dit paléontologues? Parce que quand on parle d'histoire, c'est à partir de l'écriture.
C'est l'écriture et la culture.
C'est l'écriture.
C'est la culture.
Voilà. Et ça...
C'est le début de l'histoire.
C'est 6000 ans. C'est... Bon, alors il va te dire 7000 ans. Ouais. Mais jamais quelqu'un va dire 20 000 ans. Jamais. Jamais de jamais. Il y en a qui vont dire 7 000 ans. Ok, d'accord. 7 000 ans. On dit 5780. Je dis 7 000. Ok, d'accord. Mais ce n'est pas 1 million. Qu'est-ce qui s'appelle Adam? Ça, c'est le début de la période du balbutiement de l'histoire. C'est-à-dire, c'est l'agriculture. Jusque-là, c'était ce qu'ils appellent les chasseurs-cueilleurs. Alors certes, les chasseurs-cueilleurs, ils avaient aussi une représentation symbolique des choses, une vision du monde, etc. Mais le début des balbutiements de l'écriture, du début de l'organisation sociale et agraire, ouais, par exemple la sélection des espèces des mammifères domestiques, les moutons, les vaches, etc. Ça, c'est 6000, 7000. J'étais d'ailleurs, il y a X années, j'étais allé à la Grande Galerie de l'Évolution, là-bas, au Jardin des Plantes. Et c'est là-bas que j'ai été ébahi de ça, quoi. Le balbutiement de l'histoire, c'est 6000, 7000, pas plus. Et en général, c'est audible, hein, si je peux me permettre. Excusez-moi. Allô ? Allô ? Allô, allô ? Bon, très classe. Allô ? Oui ? Certes. Oui. Une seconde. Excusez-moi, les amis, je vous demande. Oui. Donc,
l'agriculture, c'est 7000 ans.
C'est comment ?
L'agriculture, c'est 7000 ans.
Hein, tu as intérêt. Ah, il a voulu voir si c'était vrai ce que je raconte. Hein, t'as vu.
Parce qu'en fait, les conditions techniques, en fait, c'est apparemment une teneur en CO2 qui n'existait pas avant. Et donc, il ne pouvait pas y avoir d'agriculture parce que.
Ah, ça, c'est le chat. Ils sont trop. D'accord. Alors, je vais vous dire, la nafkamina de ça. Moi, la newt d'Ati, selon la pauvreté de ma pensée, il y a un débat. S'il y a un mort dans une pièce, c'est écrit la Torah. Adam, qui amoud baoel, kolaba el aoel itzbar. Un homme, s'il meurt dans une tente, kolaba el aoel itzbar. Tout celui qui va dans la tente sera impur ou rendra impur. D'accord ? Bien. C'est dans Parashat Troukat. Il y a un débat. Toumatoel, c'est-à-dire qu'il y a un cadavre, juif ou non juif. Je le touche, je deviens impur. Maintenant, il y a un cadavre dans une pièce. Tu rentres dans la pièce, tu deviens impur. Est-ce que c'est juif ou non juif ou que un juif ? C'est un débat dans la Gemara. Rabba Meposek, que c'est Adam, c'est que Israël. C'est Toumat Oel, c'est que Israël. Toumat Oel. C'est Adam, c'est Israël. Tosfot, le collègue. Tosfot rapporte des Mishnayot à la fin de Masechet Oalot, pour dire qu'on n'est pas Posek comme cette Mimra. C'est juif ou non juif, c'est Metame Beoel. Donc, qu'il y a un juif dans une pièce, un cadavre, ou un non-juif, c'est Tamé Beoel. Quelle est l'incidence pratique ? Quelle est la nafkamina, comme on dit ? Quelle est la nafkamina ? S'il y a un cadavre goy, est-ce qu'un Cohen peut rentrer dans la pièce ? D'accord. Maintenant, on est au musée des Antiquités Nationales de Saint-Germain-en-Laye. Vous êtes déjà allé là-bas, musée d'Antiquités ? Pourquoi t'es pas allé là-bas ?
Pourquoi t'es pas allé ceci ? T'es pas allé cela ? Pourquoi t'es pas
allé ? T'es allé au musée de... Oui ? Ouais. Ouais, c'est super intéressant. Il n'y a personne dans ce musée, ça intéresse personne. Mais moi, ça m'intéresse.
Ma femme a fait l'école du Louvre.
Comment ?
Ma femme était étudiante, elle faisait l'école du Louvre, alors on y allait fréquemment.
Ah ouais, alors, d'accord. Mes gosses, ils disent, papa... Qu'est-ce que tu nous as fait subir ? Tu nous as même amené au musée des Antiquités Nationales de Saint-Germain-en-Laye. Ça, c'est le pire, tu vois, ça, c'est les griefs. Peut-être le pire grief qu'ils ont à mon égard. Je les ai envoyés, quand ils étaient gosses, au musée des Antiquités Nationales. Par contre, moi, je me suis kiffé ma race, parce qu'on apprend plein de choses là-bas. Et t'as plein de squelettes, des hommes préhistoriques. T'as plein de squelettes. Est-ce qu'un Cohen peut rentrer dans cette pièce ? Moi, je dis oui, parce que ça ne s'appelle pas Adam. Adam, c'est que à partir de c'est ce qu'on appelle Adam qui a eu la prophétie, que d'il y a 5780 ans, ou alors, bon, il va dire le plus début de l'agriculture, ce que monsieur a vu sur Google, en 17000 ans. Mais les hommes préhistoriques, les Homo, c'est indubitablement, ça c'est pas Adam. C'est pour moi. Je vais pas parler avec des Dayanim, parce que bon, la question s'est pas posée vraiment, À Cohen, il dit, je veux absolument rentrer dans la salle des squelettes du musée des Antiquités Nationales. Mais pour moi, c'est pas Shout et Barour.
C'est pas Adam.
C'est un slave, une étape, mais qui n'est pas Adam. Eh bon, non ? T'es jeune là-bas, tu peux le truquer là.
Même si c'est un safek, c'est un safek sur.
C'est pas un safek. Non, c'est pas un safek. Pour moi, c'est pas un safek. J'ai pas de safek. Moi, j'ai pas de safek, c'est pas ce dont on parle. Et d'après Rambam, il n'y a pas de problème. Mais
ce qui est possible, c'est que juif.
Ouais.
Mais Tesfes, il n'est pas d'accord.
Tesfes, il est Choylek. Il est Choylek. Ok, c'est bon. Alors.
Donc, ce qu'il faudrait dire, comme je me confiais à Philippe, que tout ce que toute une description chronologique n'a aucun intérêt, enfin c'est pas le sujet, tenter une explication scientifique, ce n'est pas le sujet, et que ce qu'on peut voir émerger, c'est que Dieu a voulu faire que la lumière soit, pourquoi ? Pour que sa parole soit en lumière, donc la Torah soit en lumière, donc que Torah et Israël soient la lumière, soit ou mis en lumière, qu'il faut qu'il y ait la lumière sûre, pour que ce soit la lumière pour que tout ce...
Il y a une intervention, qu'il y a une intervention sur cette lumière. Il y a la parole, voilà.
Je me suis demandé.
D'accord, ok. Non. Bon, alors, on
va fait,
voir.
C'est ça, Adam, c'est à partir du moment où il est capable de créer. Parce que tant qu'il cueillait péché, fait péché, en fait, il ne fait rien, il ne crée rien.
Alors, regardez, moi j'ai creusé la question. Maintenant, il y a encore autre chose de très très important. La Mishnah dans Chagiga, première Mishnah du deuxième Pérec de Chagiga, dit Mal et Fanim, Mal et Achor, Mal et Mala, Mal et Mata, et les Rachout la mer. Ce qui était avant, on ne peut pas savoir. Ce n'est pas dans nos domaines. Il faut aussi savoir, ça aussi c'est des choses très très importantes, que nous, on est des êtres très relatifs. Disons, l'homme, comme dit le psalmiste, l'homme vit 70 ans, vim begvorot shmonim shana. Peut-être, s'il a la chance, 80 ans, que sais-je. D'accord. Bon, aujourd'hui, on va rajouter, disons, à la louche, 20 ans. Okay. Mais bon, quelqu'un, il va être centenaire. D'accord, ok. Abbé Gizit. Que ça lui fasse du bien. Maintenant, qu'est-ce que nous, on va se poser la question, qu'est-ce qu'il y avait il y a des millénaires ? On n'a pas l'équilibre, on n'a pas les outils. Tu vas, il y a un petit chercheur là dans un centre de recherche, il va te faire une hypothèse. Ok, ça peut te faire plaisir. Tu as fait ton hypothèse. Ça va avancer à quoi ? Si, ça avance.
D'un point de vue scientifique, oui, voilà. Mais c'est pas notre sujet. C'est pas notre sujet. Oui. D'un point de vue scientifique.
Comment ?
D'un point de vue scientifique, c'est
intellectuellement, oui.
Oui, d'accord. Mais bon, c'est une hypothèse.
Mais c'est pas. Ouais.
C'est une hypothèse.
Ok, bien sûr. Qui peut être falsifié, qui peut être.
C'est l'hypothèse.
Oui. L'anthropologue s'intéresse au passé pour voir s'il y a un sens à l'histoire, à l'évolution, c'est-à-dire comment est-ce que l'homme va évoluer dans les 200 ans à venir. Bah, la logique, souvent, il l'appuie dans le.
Non, mais la logique. Je veux dire le. Ce sont tout ça, ce sont des modélisations, mais la réalité de la chose, la connaissance de la chose, la connaissance de la chose, elle est très 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 relative, très relative.
On ne peut que déduire.
C'est des modélisations. Il faut savoir qu'on est très, très petit.
Ça angoisse et ça passionne l'homme, quoi.
Comment ?
Ça angoisse et ça passionne.
Oui, mais nous, on a. Oui, mais c'est pour ça que nous. Moi, j'ai coutume de dire que, quand, par exemple, on m'a demandé d'intervenir dans ces sujets-là, X fois, qu'on a une prophétie. La nécessité de la prophétie. La prophétie. Alors, ensemble, on a déjà vu au fil des années beaucoup d'aspects de la prophétie, hein, comme on vient de voir d'Arachi, qui a un côté roi Hakodesh indéniable. Mais un côté de la prophétie, qu'on a des connaissances précises, que Dieu a transmis à Moshe au Sinaï, des connaissances précises sur lesquelles on n'a pas de doute. La vie après la mort, la croyance de la résurrection des morts, la venue du Mashiach, que Adam était créé, à un moment T, était moins un, c'était pas Adam. Qu'est-ce que c'était ? On ne sait pas. Mais c'est pas le sujet. C'est pas notre sujet, parce que nous, la Torah, c'est un enseignement. Un enseignement, c'est quelque chose qu'on peut concrétiser dans notre existence. Or, ces réflexions, sont déresponsabilisantes. Ces réflexions, de savoir qu'est-ce qu'il y avait avant, de finalement on vient d'une amibe qui s'est transformée en un crapaud, ce crapaud s'est transformé en un colibri, ce colibri s'est transformé en un machin bidule, et que nous finalement qu'est-ce qu'on est ? On est un animal évolué, et que finalement si j'ai envie un homme de s'accoupler avec un animal, bon finalement c'est des pulsions comme les autres, pourquoi pas ? Hein ? Finalement, on est des animaux, pourquoi on ne le ferait pas ? Hein ? Donc,
comment
Ouais, donc
c'est à une réalité.
Donc, ces réflexions qui ne sont pas, qui sont des modélisations, en général, sont déresponsabilisantes. Or, la Torah, c'est le contraire. La Torah, tout de suite, quand on dit Bereshit pour la Torah et pour Israël. Tout de suite, on lui dit, le premier mot de la Torah, c'est pour Réchit. C'est-à-dire que toi, tu es un Israël, tu dois assumer ton côté Réchit. Tu dois, tu as une responsabilité. Tu as une responsabilité. C'est le contraire. C'est le contraire.
On n'est plus dans des modélisations.
Mais c'est le contraire. Mais c'est tout de suite le contraire.
Et ta responsabilité, c'est la lumière.
Comment ?
Et ta responsabilité, c'est la lumière.
C'est la lumière. Et mais même le premier mot. Rachid dit que « En a pasou komer ela darcheni »« Dorshani »« En a mikra aze omer ela dorshani » Ce verset me dit « Recherche-moi ». C'est-à-dire que si on regarde la syntaxe des premiers mots, il y a une anomalie. Donc, c'est Bishvil, ça c'est l'option de Rashi, l'option, disons, Roi Rakodesh de Rashi, que, et c'est le Midrash Rabbah que nous verrons à un moment ou un autre, où il est en train de nous dire, c'est Bishvil, la Torah, c'est pour la Torah. C'est-à-dire que l'enjeu de tout ce qui va être là, c'est de réactiver la dimension de la création. Parce que ce monde dans lequel tu as Shamaim Varetz, quand tu vas voir par exemple un très très beau paysage, tu vois un paysage sublime, des montagnes magnifiques, mais ce monde, il est créé ou il n'est pas créé? Tu vois des montagnes, tu vois, je ne sais pas moi, je ne suis pas allé dans l'Himalaya, mon fils Akiva est allé dans l'Himalaya, mais pas moi. Ah oui, la mort.
Katmandou,
il est allé, à Damasrala, la ville du Dalai Lama, avec son épouse et Shlomo Shragar, il y a 3 ans. Ok, en tout cas, quoi qu'il en soit, moi, j'ai déjà vu des belles montagnes, tu vois. T'as des paysages qui sont impressionnants. Maintenant, quand tu vois ça, est-ce que ça clame que le monde est créé ou pas créé? Je sais pas, franchement. Est-ce que ça clame la grandeur du Créateur? Ou c'est beau, ou c'est subjugant, tellement que les peuples himalayens, ils disent que ce sont des montagnes sacrées, c'est des dieux, ils nient presque le Créateur, ils confèrent à ces montagnes des dimensions telluriques.
C'est comme le mont Fuji.
Que c'est il y a à la limite, ça clame presque le contraire que la création. Presque le contraire. Quand tu vois, c'est marrant, le Shabbat, j'ai rêvé que j'étais dans un endroit. J'ai rêvé où il y avait des hautes montagnes, il y avait une vallée avec des hautes montagnes. Et qui avait une énergie tellurique comme ça, tu vois, une énergie. Tu as des endroits, tu sens qu'ils ont une énergie, un pouvoir presque immanent, donc contraire qu'un créateur. Or, qu'est-ce qui va nous donner l'idée que ce monde est créé? Eh bien, c'est la Torah et c'est Israël. Peut-être c'est pour ça que les nations ne supportent pas Israël. Parce que Israël est en reformulation constante. Qu'est-ce que c'est être juif? On ne sait pas. Quelqu'un va dire, c'est quoi être juif? Ouais, c'est manger la carpe à la juif. D'accord, ok. Moi, quand dans ma famille, on dit, c'est quoi être juif? C'est manger la carpe à la juif. Quelqu'un ne mange pas la carpe à la juif, il n'est pas juif. D'accord. Donc, voilà. Ben, jusqu'au moment où j'ai rencontré des séfarades, et je me suis dit, peut-être c'est pas la bonne définition. Je dis, papa, maman, vous m'avez raconté des choses qui ne sont pas scientifiquement prouvées. Et eux, ils disent que quoi? J'ai vécu 7 ans à Créteil. Les mecs, ils me voyaient. Et je comprends pas. Tu manges plein du couscous. Mais alors, t'es pas juif. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est quoi être juif? On sait pas. On ne sait pas. Donc, c'est un Français, je ne sais pas. Un Français, est-ce qu'il se pose une question? Je ne sais pas. Est-ce que ça existe, les Français, aujourd'hui? Je ne sais pas. Je ne sais pas exactement. Ça existe?
Ça a existé.
Ça a eu. Il y avait Fernand Reynaud. Ça a eu.
Ça ne paye plus.
Fernand Reynaud.
Notre maître.
Il y a eu. Mais aujourd'hui, bon. Et d'ailleurs, c'est
il s'appelle Mohamed maintenant, les Français.
Mais d'accord, mais c'est très problématique. C'est extrêmement problématique. Mais une culture, peut-être les Allemands, ça existe encore. Peut-être ça existe encore, les Allemands. Mais c'est un produit fini. Mais Israël et la Torah par Israël, donne l'idée que le monde est en devenir, le monde est en création, le monde est en renouveau, comme dit monsieur, le monde est en innovation, et qu'il y a un devenir à ce monde n'est pas figé, etc. Donc ça, c'est Israël, est réactif.
Création ne veut pas dire produit fini.
Voilà. Et ça, c'est Bishvil Israël, Rashi, Bishvil Israël, c'est Israël qui est Réchit, qui va réactiver tout le temps. Ce monde est en création, ce monde est aussi un devenir.
Un monde vivant.
Vous voyez, par exemple, là, c'est une grande problématique de nos contemporains. Quel va être notre devenir? Mais j'avoue que quelqu'un qui étudie la Torah, il n'a pas cette angoisse.
Non, parce qu'il sait qu'il y a un avenir.
Il sait qu'il y a un avenir. Il y a un devenir.
Il y a un devenir. C'est normal, c'est la création.
Il y a un devenir.
C'est pourquoi les archéologues, tout ça, ils sont tellement passionnés par la paléontologie. Parce que ce n'est pas une création. C'est pas une création permanente. C'est un truc qui... C'est ça.
C'est ça.
C'est ça qui les rassure. C'est ça qui ont besoin de ça. Mais le mouvement, la création, ce n'est pas la création. Parce que ça demande une réalité. Ça demande une réalité.
L'écologie, c'est une des nouvelles divinités. Quoi. C'est quelque chose qui vraiment, c'est un culte. Quoi.
Ah ben, c'est entre parenthèses, hier soir, ils m'ont demandé d'intervenir là-dessus. C'était super. Ouais. C'était très bon. J'ai enregistré. Bon, la plupart de ce que j'ai dit, vous connaissez presque par cœur. Hein. Vous pouvez terminer ma phrase. Mais c'est bien sorti. Mais c'est normal. C'est normal, parce que le monde, comme il se donne, il se montre comme il est, comme toi tu dis, Philippe Pariset. Il se donne comme il est, et quel est son devenir? Tu vois pas? Or, c'est Israël, par ce réchiste, c'est le début d'eux. C'est le début d'eux. Donc, il y a deux, il va venir. Donc, vous voyez la profondeur de ce rachis. On s'arrête là-dessus, on n'a encore pas fait du Midrash Rabbah. Mais je pense que oui, parce que les questions que Rashi nous a aidé à travailler vont être développées complètement dans le Midrash Rabbah. Rashi prend une option. Il y a dans le Midrash, il y a X options. Rashi prend une option. Ok. Suite au prochain numéro.
Merci à vous. Thank you.